Chapitre 2. Un souhait exaucé. Malgré le feu qui crépitait dans la cheminée de marbre vert, le salon privé de la chère d'Améline était glacial. Transi de froid, Moiraine devait serrer les dents pour les empêcher de claquer. Accessoirement, cela l'empêchait de bâiller, ce qui eût été des plus inconvenants, nuit écourtée ou pas. Par un temps pareil, les tapisseries qui pendaient au mur, des scènes printanières aux couleurs vives spécialement choisies pour la mauvaise saison, auraient dû être couvertes d'une couche de givre, et des stalactites auraient dû pendre du plafond. Par rapport à Moiraine, la cheminée se trouvait à l'autre extrémité de la pièce. De toute façon, elle ne dispensait qu'une très chiche chaleur. Pour ne rien arranger, les fenêtres à vantaux, qui donnaient accès au balcon d'où on pouvait admirer le jardin privé de la chère d'Améline, n'était pas aussi étanche qu'elle l'aurait dû, laissant passer un courant d'air mordant. Dès que le vent soufflait dehors, Moiraine avait le dos glacé, malgré l'épaisseur de sa robe de laine. Siouan, sa meilleure amie, subissait le même sort. Originaire de Théar, la fière jeune femme aurait préféré mourir gelée plutôt que de montrer son inconfort. Le palais du soleil, où Moiraine avait passé la plus grande partie de sa jeunesse à Kyrienne, était lui aussi du genre frisquet en hiver. Mais là-bas, on ne l'avait jamais obligé à rester debout dans les courants d'air. Histoire d'enfoncer davantage le clou, le froid qui montait du sol de marbre traversait le tapis d'Iliane aux motifs floraux et ne se laissait pas arrêter non plus par les escarpins de Moiraine. À sa main gauche, la bague au serpent, symbole de l'éternité du temps et du lien qui unissait sa porteuse à la tour, aurait tout aussi bien pu être un anneau de glace. Mais quand la chère d'Améline disait à une acceptée de rester là où elle était et de ne pas la déranger, il était de bon ton d'obéir et de ne pas montrer qu'on crevait de froid. Il y avait d'ailleurs pire que ça. L'âcre odeur de fumée que les courants d'air, si vigoureux fussent-ils, ne parvenaient pas à chasser. Une fumée qui ne provenait pas de cheminées, mais des villages environnants, incendiés par les aïels. En se focalisant sur le froid, Moiraine réussissait à oublier un peu cette fumée et la bataille en cours. Derrière les fenêtres à vantaux, le ciel s'éclaircissait de plus en plus. Avec le jour, la tuerie recommencerait, si ce n'était pas déjà fait. Moiraine tenait à savoir où en étaient les choses. À dire vrai, elle avait le droit d'être informée, car n'était-ce pas son oncle qui avait déclenché le conflit? Sans vouloir excuser les aïels, qui avaient dévasté le Kyrienne et sa capitale, la jeune femme savait où étaient véritablement les torts. Depuis l'arrivée des aïels, les acceptés étaient consignés dans la tour blanche, comme de vulgaires novices. Du coup, elle ne savait plus rien du monde extérieur, à croire qu'il avait cessé d'exister. Le haut capitaine de la garde, Azil Maride, faisait régulièrement son rapport à la chaire d'Améline. Hélas, ses nouvelles étaient réservées aux sœurs, et encore, pas à toutes. Lorsque les acceptés les interrogeaient sur le conflit en cours, les Aes Sedai leur conseillaient d'oublier ça et de se concentrer sur leurs études. Comme si la plus grande bataille livrée depuis l'époque d'Arthur, presque sous le nez des jeunes femmes, n'avait rien été d'autre qu'une distraction. Consciente qu'elle ne pouvait pas s'impliquer dans cette guerre d'une manière visible, ou de toute autre façon en réalité, Moiraine entendait pourtant penser pour illogique. Cela dit, elle n'avait jamais prévu de rejoindre l'Aja Blanc, une fois qu'on l'aurait autorisé à porter le châle. Les deux femmes en robe de soie bleue assises face à face à un petit bureau à l'autre bout de la pièce ne semblaient pas se soucier de la fumée et du froid. Pourtant, elles étaient aussi loin du feu que Moiraine. Bien entendu, il s'agissait d'Aes Sedai au visage lisse trompeur. Au fil des ans, elles avaient sûrement assisté à plus de guerres que n'importe quel général. Du coup, elles n'auraient probablement pas bronché si un millier de villages avaient brûlé devant leurs yeux. Pour devenir une Aes Sedai, il fallait apprendre à contrôler ses émotions et à surmonter sa fatigue. Même si elle n'avait presque pas dormi depuis le début de la bataille, Tamra et Jitara semblaient en pleine forme. Les deux acceptés qui faisaient le pied de grue en se gelant étaient là pour les servir à tout moment, qu'elles veuillent les charger d'un message ou qu'elles leur demandent d'aller chercher quelque chose. Restait le froid. Mais les Aes Sedai semblaient insensibles aux caprices du temps et elles paraissaient même ne pas en avoir conscience. Comme toutes les acceptées, Moiraine avait essayé de savoir comment les sœurs s'y prenaient pour être indifférentes au froid et à la chaleur. Quoi qu'il en soit, cette aptitude n'avait rien à voir avec le pouvoir de l'unique. Sinon, elle aurait vu les tissages ou les aurait sentis au minimum. Tamra n'était pas qu'une simple Aes Sedai. C'était la chère d'Améline, la dirigeante suprême de l'ordre et de la tour blanche. Bien qu'elle fût issue de l'Aja bleu, elle portait une étole aux couleurs des sept Ajas, indiquant ainsi qu'elle appartenait à tous, sans être liée à aucun. Durant la longue histoire de la tour, Certaines chairs d'Amirline avaient fait montre d'un zèle qui n'avait rien d'obligatoire. Appartenant à cette catégorie, Tamra portait une robe rayée de cette couleur, comme son étole. Avec elle, aucun Naja ne pouvait se sentir favorisé ou désavantagé. Hors de la tour, quand Tamra Ospenia parlait, les rois et les reines tendaient l'oreille. Qu'ils abominent la tour blanche ou aient au contraire une Aes Sedai pour conseillère, tous ces souverains filaient doux. Même s'ils ne suivaient pas toujours ses conseils et désobéissaient parfois à ses ordres, ils l'écoutaient poliment et sans protester. Les hauts seigneurs de Théar eux-mêmes sacrifiaient à ce rituel, et le seigneur général des Fils de la Lumière aussi. De longs cheveux grisonnants tenus par un filet d'argent encadraient le visage déterminé de Tamra. Consciente de sa supériorité sur les rois et les reines, elle ne laissait cependant pas son pouvoir lui monter à la tête. Au sein de la tour blanche et à l'extérieur, elle n'en abusait jamais. Juste et équitable en toutes circonstances, les deux ne revenaient pas toujours eux-mêmes, Tamra se montrait très souvent bienveillante. Pour toutes ces raisons, Moiraine l'admirait beaucoup. La gardienne des chroniques, Jitara Morosso, était une femme très différente. Sans doute la sœur la plus puissante après la chair d'Amirline, et en tout cas l'égale de toutes les représentantes qui siégeaient au conseil, elle se montrait immanquablement juste et presque toujours équitable. La bienveillance, en revanche, lui était totalement étrangère. Physiquement superbe, elle aurait mérité d'appartenir à l'âge à vert ou au jaune. Très grande et presque voluptueuse, elle portait un collier de pierres précieuses en forme de flamme, des boucles d'oreilles ornées de rubis gros comme un œuf de pigeon, et trois riches anneaux en plus de sa bague au serpent. Vêtue d'une robe bleue, une nuance plus soutenue que celle de Tamra, ornée de dentelles, elle arborait fièrement une étole bleue presque assez large pour mériter le nom de châle. Issue de l'âge à bleu, comme Tamra, Jitara, disait-on, continuait à s'en sentir membre. Si c'était vrai, cela avait de quoi choquer. La simple largeur de l'étole, un choix personnel, militait hélas en ce sens. Comme pour toutes les Aes Sedai liées de longue date au pouvoir de l'unique, il était impossible de donner un âge à Jitara. Au premier coup d'œil, elle semblait avoir au grand maximum 25 ans. Au deuxième, elle pouvait passer pour une femme de 45 ou 50 ans encore très belle. Mais le troisième était susceptible de tout changer, et ainsi de suite. Pour les initiés, ce visage sans rides et sans âge était la marque même des Aes Sedai. Pour les profanes, et ils étaient nombreux, ses cheveux ajoutaient encore à la confusion. Tenus par des peignes d'ivoire sculptés, ils étaient en effet blancs comme la neige. Selon certaines rumeurs, Jitara avait depuis longtemps fêté son 300e anniversaire, un âge vénérable même pour une Aes Sedai. Cela dit, aborder ce sujet était d'une impolitesse extrême. Une autre sœur aurait probablement été sévèrement condamnée pour cette indélicatesse. Une acceptée ou une novice aurait fini dans le bureau de la maîtresse des novices pour une rude séance de badine. Mais penser à ce sujet ne pouvait pas faire de mal. Un autre élément classait Jitara dans une catégorie à part. À l'occasion, elle avait le don de prédiction. En d'autres termes, elle pouvait parler de ce qui se passerait dans l'avenir. Un talent très rare parmi les sœurs, et dont la gardienne des chroniques ne bénéficiait pas en permanence, il fallait le souligner. Mais des rumeurs, la marchandise la plus facile à trouver dans les quartiers des acceptés, prétendaient que Jitara avait multiplié les prédictions ces derniers mois. Si les armées de défenseurs avaient pris position devant la ville, murmurait-on par exemple, c'était grâce à elle, parce qu'elle avait prévu l'attaque des Aiel. Bien entendu, les acceptés n'avaient trouvé aucun moyen de vérifier cette théorie. Mais certaines sœurs étaient peut-être en position de le faire. Encore que... Même lorsque tout le monde était informé que Jitara avait émis une prédiction, seule Tamra savait exactement de quoi il s'agissait. Espérer être présente au moment où la gardienne des chroniques énonçait un oracle était à rien puéril. Pourtant, Moiraine s'était laissée aller à y croire. Mais depuis que Siouan et elle avaient remplacé Temeil et Brendas au service des deux dirigeantes de l'ordre, soit près de 4 heures, Jitara écrivait une lettre avec une concentration sans faille. Moiraine s'avisa soudain que ça faisait beaucoup de temps pour une seule missive. D'autant que Jitara n'avait même pas couvert la moitié d'une feuille. La plume en l'air, elle restait ainsi, regardant à peine son travail. Comme si elle avait capté les pensées de Moiraine, elle jeta un coup d'œil à la plume, eut un soupir agacé, puis la trempa dans une coupe vernie rouge remplie d'alcool, afin de dissoudre l'encre séchée. Et à l'évidence, ce n'était pas la première fois qu'elle se livrait à cette opération. Sinon, le liquide de nettoyage n'aurait pas été aussi noir que celui de l'encrier posé sur la table à côté de la feuille. Penchée sur un classeur en cuir au dos doré, Tamra semblait étudier attentivement une liasse de documents. N'était un détail troublant. Moiraine ne l'avait jamais vu tourner une page. Les deux Aes Sedai étaient la vivante illustration du calme et de la sérénité. En réalité, l'inquiétude les rongeait. Victime d'une étrange contagion, Moiraine se mordit nerveusement la lèvre inférieure. mais elle dut s'interrompre pour ne pas céder à l'envie de bâiller. En revanche, rien ne l'obligea à cesser de réfléchir. Le sujet d'inquiétude était récent, ça ne faisait pas de doute. La veille, Moiraine avait croisé dans un couloir une Tamra rayonnante d'assurance. Il ne pouvait donc pas s'agir des conséquences de la bataille, puisqu'elle faisait rage depuis 3 jours. Alors quoi d'autre? Si Jitara avait prédit l'affrontement, elle pouvait avoir eu depuis d'autres visions. Mais lesquelles? Si les hypothèses étaient parfois une perte de temps, l'art de la déduction se révélait souvent utile. Jitara avait-elle prédit que les Aiel traverseraient les ponts et envahiraient la ville? Non, c'était impossible. En 3000 ans, alors que des nations naissaient et disparaissaient, l'empire d'Arthur et le Faucon subissant le même sort, aucune armée n'avait réussi à franchir les murs de Tarvalon en se ménageant une brèche ou en défonçant les portes. Mieux encore, très peu d'ennemis avaient tenté l'aventure. Alors, Jitara avait-elle eu connaissance d'un autre désastre lié à la bataille? Ou au contraire de ce qu'il fallait faire pour éviter une catastrophe? Sauf si certaines sœurs étaient revenues pendant la nuit, Tamra et Jitara étaient les seules Aes Sedai présentes dans la tour. D'après ce qu'on disait, les blessés étaient assez nombreux pour mobiliser toutes les Aes Sedai capables de guérir, même les moins douées pour ça. Cela posé, personne n'avait précisé que les sœurs s'étaient absentées pour cette raison. S'il leur était impossible de mentir, les Aes Sedai avaient souvent une approche à rien oblique de la vérité, et elles se laissaient parfois aller à manipuler leurs interlocuteurs. En outre, lorsqu'elles étaient en danger, ou pour sauver leur champion, utiliser le pouvoir comme une arme cessait d'être un tabou. Depuis les guerres des Trollocs, où elles avaient affronté les créatures de ténèbres et les armées du Père des Mensonges, les Aes Sedai n'avaient plus participé à un combat. Mais Jitara avait peut-être prédit une déroute, sauf si les sœurs épaulaient les défenseurs. Dans ce cas, pourquoi attendre le 3e jour? Et une prédiction pouvait-elle être si précise? Si les sœurs s'en étaient mêlées plus tôt, ça aurait provoqué... Du coin de l'œil, Moiraine vit que Xuan lui souriait. Quand son regard pétillait ainsi, la jeune femme semblait soudain plus jolie que belle. Un phénomène très étrange. Plus grande que Moiraine de 3 ou 4 pouces, le teint presque aussi clair, Xuan portait sa robe blanche d'accepté avec une assurance que son ami lui enviait. Agacée par sa petite taille, Moiraine avait mis du temps avant de ne plus enrager parce que presque toutes les femmes la regardaient de haut. En revanche, elle continuait à remarquer la taille des gens. Quant à la robe, elle se demandait comment les sœurs de l'âge à blanc faisaient pour passer toute leur vie dans des tenues de deuil. Au début de son noviciat, être vêtue de blanc, sans les 7 rayures aux manches et à l'ourlet qui représentaient les différents âges, avait été une torture. Moins que d'apprendre à contrôler son tempérament de feu, pour être honnête. Mais avec tout ça, sa première année s'était révélée des plus délicates. À présent, les rechutes étaient rares.
« Nous saurons ce qu'il en est quand nous le saurons », souffla Xuan avec un bref coup d'œil pour les 2 Aes Sedai.
Tamra et Jitara étaient immobiles comme des statues. Jitara tenait de nouveau sa plume en suspension au-dessus du parchemin, et l'encre séchait avec une belle constance. Moiraine ne put s'empêcher de sourire à son amie. Xuan avait le don de la faire sourire quand elle aurait volontiers froncé les sourcils et éclaté de rire lorsqu'elle aurait voulu éclater en sanglots. Bien entendu, un bâillement lui échappa et elle regarda à la dérobée la chair d'Amerline et la gardienne des chroniques, se demandant si elle s'en était aperçue. Mais elle n'avait rien vu, toujours immergée dans leur bizarre concentration. Se tournant de nouveau vers Xuan, Moiraine vit qu'elle avait plaqué une main sur sa bouche et la foudroyait du regard comme pour la rappeler à l'ordre. Cette posture cocasse faillit la faire glousser comme une idiote. Au début, son amitié avec Xuan avait plutôt surprise. Mais parmi les novices et les acceptés, les duos se composaient toujours de personnes très différentes, ou qui se ressemblaient comme 2 gouttes d'eau. Sur certains points, Xuan et elle étaient des copies conformes. Orphelines toutes les deux, elles avaient perdu leur mère très jeune, leur père décédant après qu'elles eurent quitté leur foyer. Toutes deux étaient nées avec une étincelle de pouvoir, une occurrence plutôt rare. Même si elles n'avaient pas suivi une formation, elles auraient commencé à canaliser de manière naturelle. Mais toutes les femmes n'étaient pas en mesure d'apprendre, il fallait le préciser. Et c'était d'ailleurs là que commençait leur différence, qu'on ne pouvait pas réduire au simple fait que l'une, Xuan, soit née pauvre et l'autre dans une famille riche. Au Keirien, on respectait les Aes Sedai et, avant de partir pour la Tour Blanche, Moiraine avait eu droit à un grand bal au Palais du Soleil. À Théar, canaliser était proscrit et les Aes Sedai avaient mauvaise réputation. Le jour où une sœur avait découvert son aptitude à canaliser, Xuan avait été embarqué d'autorité sur un bateau en partance pour Tarvalon. Il y avait une multitude d'autres différences, même si aucune ne mettait en danger leur amitié. Xuan était, par exemple, arrivé à la tour avec une parfaite maîtrise de ses nerfs. Très douée pour résoudre les énigmes, un calvaire pour Moiraine, elle avait une sainte horreur des chevaux, alors que son ami les adorait. Enfin, elle assimilait les connaissances à une vitesse qui stupéfiait Moiraine. Et il n'était pas question ici du pouvoir et de son utilisation.
Inscrites dans le livre des novices le même jour, les deux amies avaient progressé au même rythme, accédant ensemble, là encore au jour près, au statut d'acceptée. Mais Moiraine, issue d'une famille noble, avait reçu l'éducation correspondant à sa classe. Très instruite en histoire, elle parlait et lisait l'ancienne langue assez bien pour n'avoir pas eu besoin de suivre le cursus dans cette matière. Fille d'un pêcheur de Théar, Siouan savait à peine lire et compter à son arrivée, mais elle avait absorbé les connaissances comme une éponge, ou comme le sable boit l'eau. Désormais, elle enseignait l'ancienne langue aux jeunes débutantes. Siouan Sanche était présentée comme un modèle aux novices. Moiraine aussi, en réalité. À part les deux amies, une seule autre fille avait réussi à boucler son noviciat en 3 ans. Elaïda Aroihan, une personne détestable, était, elle, parvenue à passer du statut d'acceptée à celui de sœur en 3 ans, également un record. Dans les conditions actuelles, il semblait possible que Moiraine et Siouan fassent aussi bien. Très consciente de ses nombreuses lacunes, la jeune noble du Kéirien pensait que la fille de pêcheur de Théar ferait une parfaite Aes Sedai. Moiraine voulut souffler que la patience était faite pour les pierres, mais le vent fit de nouveau des siennes dehors, et le courant d'air lui gela jusqu'à la moelle des os. Pour la protection que lui fournissait sa robe, elle aurait tout aussi bien pu être en chemise de nuit. Du coup, au lieu de murmurer, elle poussa un petit cri. Tamra tourna la tête vers les fenêtres, mais pas à cause de ce manquement au protocole. Le vent charriait soudain l'écho d'une sonnerie de corps. Des dizaines de corps, semblait-il. Non, des centaines. Pour qu'on les entende à l'intérieur de la tour, il fallait au moins ça, et le bruit était ininterrompu. Une urgence, quelle que fût sa nature. La chair d'Amirline referma son classeur d'un geste sec.
« Moiraine, va voir s'il y a des nouvelles du champ de bataille !»
ordonna-t-elle. Le ton était presque normal, mais avec quelque chose de tranchant, qu'on n'y entendait pas d'habitude.
« Et toi, Siouan, fais-nous donc une infusion. Dépêchez-vous, mes filles !»
Moiraine tressaillit. Tamra était inquiète pour de bon. Mais il n'y avait qu'une chose à faire.
« Nous sommes à ton service, mère, »
dit-elle en chœur avec Siouan. Les deux jeunes femmes s'inclinèrent, puis se dirigèrent vers la porte de l'antichambre, près de la cheminée. À côté de cette porte, sur un plateau en chanvre tressé trônant sur un guéridon, reposait une bouilloire en argent rehaussée d'or, une boîte à infusion, un pot de miel, un petit pot de lait et une carafe d'eau. Tout un service en argent embossé. Un deuxième plateau proposait une série de tasses en porcelaine verte du peuple de la mer. Moiraine sentit comme un fourmillement lorsque Siouan s'ouvrit à la source authentique pour s'unir au Saïdar, la moitié féminine du pouvoir de l'unique. Une aura entoura la jeune acceptée. Pour la voir, il fallait également être une femme capable de canaliser le pouvoir. En principe, recourir au Saïdar pour s'acquitter de tâches quotidiennes était interdit. Mais la chair d'Amirline avait ordonné que ses assistantes se dépêchent. Lui obéissant, Siouan invoquait un infime filament de feu afin de porter l'eau de la bouilloire à ébullition. Tamra et Jitara ne dirent pas un mot pour l'en empêcher. L'antichambre des appartements de la chair d'Amirline n'était pas bien grande. Rien de plus logique, puisqu'on n'y introduisait qu'un seul visiteur à la fois. La dirigeante des Aes Sedai recevait les délégations dans une des salles d'audience ou dans son bureau, pas dans son salon privé. Du coup, la petite pièce adossée à la cheminée du salon avait une température presque confortable. On y trouvait un seul fauteuil, très sobre, mais d'une taille impressionnante. En dépit de son poids, le siège avait été poussé à côté d'une des lampes à réflecteur en or, afin qu'Hélène Warel, la novice de permanence, ait assez de lumière pour lire. Installée en face de la porte du salon, le nez plongé dans son livre, la mince jeune femme n'entendit pas Moiraine, pendant qu'elle foulait le riche tapis à franges. Hélène aurait dû relever la tête longtemps avant que Moiraine soit assez près pour regarder par-dessus son épaule. Cet enfant était décidément très loin de la perfection. Présente depuis 7 ans à la tour, où elle était arrivée peu après son 18e anniversaire, Hélène n'avait plus grand-chose d'une enfant, mais toute novice, quel que fût son âge, devait se résigner à être appelée ainsi. Dans le même ordre d'idées, les Aes Sedai utilisaient ce mot pour les accepter. Dès son entrée dans l'antichambre, Moiraine avait senti l'aptitude à canaliser de la novice. Sans nul doute, Hélène aurait dû capter la sienne. Une femme capable de canaliser ne pouvait en aucun cas en surprendre une autre, si celle-ci était le moins du monde vigilante. Moiraine n'eut aucun mal à identifier le livre que dévorait Hélène. Des cœurs en flammes, un recueil d'histoires d'amour. La bibliothèque de la Tour Blanche, la plus grande du monde, contenait un exemplaire de presque tous les livres existants. Mais pour une novice, cet ouvrage n'était pas approprié. Parce qu'elle ne se faisait plus d'illusions, sachant qu'elle verrait un éventuel mari vieillir et mourir alors qu'elle ne changerait pas d'un iota, même chose avec leurs enfants, leurs petits-enfants et leurs arrière-petits-enfants, les acceptés bénéficiaient d'une certaine liberté de manœuvre. Les novices, en revanche, étaient discrètement encouragés à oublier les hommes et l'amour. À cette fin, on les tenait à l'écart de la gent masculine. Tenter de s'enfuir pour se marier, ou pire encore, se retrouver enceinte, était une faute impardonnable. De manière parfaitement délibérée, la formation des novices s'apparentait à un terrible parcours du combattant. Tant qu'à ne pas tenir le coup, mieux valait exploser durant le noviciat qu'après avoir accédé au statut de sœur. Le destin d'une Aes Sedai n'avait rien d'une promenade de santé. Avoir un enfant était incompatible avec cette rude vocation.
« Eileen, tu vas devoir mieux choisir tes lectures, » dis-moi Rain d'un ton égal. « Et te concentrer davantage sur ton devoir. »
La novice se leva d'un bond, lâcha son livre, poussa un cri étranglé et se tourna vers la femme qui venait de l'admonester. Pour une andorienne, Eileen n'était pas très grande. Pourtant, Moiraine devait lever la tête pour la regarder dans les yeux. Reconnaissant son interlocutrice, la novice autorisa un très discret soupir de soulagement. Être sermonné par une acceptée restait un peu moins grave que d'entendre les reproches d'une Aes Sedai. Cela dit, il n'y avait pas de quoi se féliciter.
« Personne n'aurait pu entrer sans que je m'en aperçoive »,
tenta de se justifier Eileen en tirant sur sa robe blanche.
« Mais Rhéan Sedai m'a autorisé à lire. Moiraine, pourquoi ce livre n'est-il pas un bon choix ?»
Eileen avait 3 ans de plus que son interlocutrice, mais la bague au serpent et la robe aux 7 rayures, aux yeux des novices, signalaient les accepter comme des puits de science. Hélas, Moiraine détestait parler ouvertement de certains sujets, quelle que soit la personne qui lui faisait face. Un sens des convenances qui lui venait probablement de son éducation aristocratique. Ramassant l'ouvrage, elle le tendit à Eileen.
Si tu leur apportes un livre abîmé, les bibliothécaires en feront une maladie.
Une réplique dont Moiraine se sentit très fière. Exactement le genre d'échappatoire qu'une sœur affectionnait lorsqu'elle refusait de répondre à une question. Pour se préparer au jour où elle recevrait le châle, les acceptés s'entraînaient volontiers à parler comme des sœurs accomplies. Pour cet exercice, les novices étaient les meilleurs cobayes. Certaines acceptées tentaient de s'exercer avec les servantes, mais elles renonçaient vite, car ça leur valait toutes sortes de moqueries. Les domestiques n'étaient pas dupes, sachant très bien que les acceptées, aux yeux des Aes Sedai, n'étaient pas juste au-dessous d'elles, mais à peine au-dessus des novices. Tombant dans le panneau, Eileen entreprit d'inspecter le livre, en quête de la moindre éraflure, et Moiraine en profita pour passer à la suite, en occultant toute question embarrassante.
« Avons-nous eu des messages en provenance du champ de bataille, mon enfant ?»
Eileen écarquilla les yeux d'indignation.
Moiraine, s'il y en avait eu, tu sais que je serais venu les transmettre à la chair de Merlin. »
Cela allait de soi, et Tamra le savait aussi. Mais là où la gardienne des chroniques ou une des membres du conseil aurait jugé que la dirigeante avait donné un ordre idiot, ce qu'elles auraient estimé selon Moiraine, une acceptée n'avait pas d'autre choix qu'obéir. Dans le même esprit, une novice n'était pas invitée à souligner qu'une acceptée venait de lui poser une question stupide.
« Est-ce une façon convenable de répondre, Eileen ?»«
Non, Moiraine. »
admit piteusement la novice.
« Depuis que je suis ici, il n'y a pas eu un seul message. »
Elle inclina de nouveau la tête.
« Jitara Sedai aurait-elle fait une nouvelle prédiction ?»« Retourne donc à ta lecture, mon enfant. »
Dès qu'elle eut prononcé cette phrase, Moiraine sut qu'elle venait de commettre une bourde, car cela contredisait ses propos précédents. Mais il était trop tard pour réparer cette erreur. Espérant qu'Eileen ne l'avait pas vu rosir de confusion, elle se détourna et sortit de l'antichambre avec toute la dignité dont elle était capable. Après tout, la maîtresse des novices avait autorisé la lecture à Eileen. Et si l'ouvrage ne lui avait pas été prêté par une acceptée, les bibliothécaires lui avaient permis de l'emprunter. Malgré tout, Moiraine détestait se ridiculiser. Lorsqu'elle revint dans le salon, de la vapeur montait de la bouilloire et de la carafe d'eau. Tandis qu'elle fermait la porte, Moiraine remarqua que l'aura du Saïdar n'enveloppait plus Siouan. Quand on mobilisait le pouvoir de l'unique, l'eau ne mettait jamais longtemps à bouillir. La difficulté était plutôt d'empêcher qu'elle s'évapore totalement. Siouan avait rempli 2 tasses et versé du miel dans l'une d'elles. L'autre avait déjà reçu son nuage de lait.
« La tasse de Jitara »,
souffla l'ami de Moiraine. Elle baissa encore le ton et fit la grimace.
« Elle aime tant le miel que son infusion devient du sirop. Et elle m'a bien dit de ne pas avoir la main trop légère. »
Sur ces mots, Siouan tendit la tasse à Moiraine. Pour l'instant, la porcelaine était encore un peu trop chaude. Mais elle aurait atteint la température idéale quand la jeune femme, après avoir traversé le salon, l'attendrait à Jitara. Toujours assise au même endroit, la gardienne des chroniques pianotait à présent nerveusement sur le bureau. Sur le manteau de la cheminée, l'horloge en bois d'acacia poli était en train de sonner la prime matine. Dehors, l'écorce déchaînait toujours. Il semblait de plus en plus furieux, mais Moiraine savait que c'était un tour que lui jouait son imagination. Campée devant une fenêtre, Tamra observait le ciel qui commençait à s'éclaircir. Elle continua après que Xuan eut tendu sa tasse avec une révérence, puis finit par se retourner et avisa enfin Moiraine. Sans daigner prendre la tasse, elle demanda.
« Quoi de neuf, mon enfant ? En principe, tu n'es pas du genre à tourner autour du pot. »
La chair d'Amirline était vraiment sur les nerfs. Dans son état normal, elle aurait su que Moiraine, s'il avait eu quelque chose à dire, n'aurait pas attendu qu'on l'y invite. Alors que Moiraine lui tendait toujours sa tasse, et avant qu'elle ait pu répondre à Tamra, Jitara se leva d'un bond, percutant si violemment le bureau que l'encrier se renversa. Les bras plaqués le long du corps, tremblant comme une feuille, la gardienne des chroniques regardait par-dessus la tête de Moiraine avec des yeux écarquillés d'horreur. Une authentique terreur, pure et primale.
« Il renaît !»
s'écria Jitara.
« Je le sens. Le dragon prend sa première inspiration sur les pentes du pic du dragon. Il vient à nous. Que la lumière nous aide. Il vient à nous. Que la lumière ait pitié du monde. Gisant dans la neige, il crie plus fort que le tonnerre. Brûlant comme le ciel, voilà ce qu'il est !»
Sur ces derniers mots, Jitara eut un infime soupir, puis bascula en avant dans les bras de Moiraine. Lâchant la tasse pour la rattraper, l'acceptée fit ce qu'elle pouvait, mais le poids de la gardienne l'entraîna vers le sol. S'agenouillant, elle parvint à retenir Jitara, juste avant de s'étaler pour se retrouver sous elle. Sans se soucier de l'encre qui coulait du bureau, Tamra accourut et s'accroupit à son tour. L'aura du Saïdar l'enveloppant, elle préparait déjà un tissage d'esprit, d'air et d'eau mêlés. Alors qu'elle prenait entre ses mains la tête de la gardienne, l'invocation se déversa dans son corps inerte. Mais cette sonde, conçue pour évaluer l'état de santé de Jitara, ne se transforma jamais en une force thérapeutique. Les yeux rivés dans ceux de la gardienne, Moiraine n'eut aucune difficulté à comprendre pourquoi. Contrairement à ce qu'elle espérait, il ne restait pas une étincelle de vie dans le regard de la pauvre femme. Le pouvoir était en mesure de vaincre toutes les maladies et de guérir toutes les blessures. Mais rien ne soignait la mort. Sur le bureau, la tache d'encre s'était répandue sur la feuille où écrivait Jitara, occultant à jamais ses derniers mots. À des moments si dramatiques, on remarquait souvent des détails qui pouvaient passer pour insignifiants. Un phénomène vraiment étrange.
« Pas maintenant, Jitara, » souffla Tamra. « Pas au moment où j'ai le plus besoin de toi. »
Le regard de la chair d'Amirline croisa celui de Moiraine, qui baissa d'instinct la tête. Les yeux de Tamra, disait-on, pouvaient faire tressaillir un rocher. Et à l'instant précis, l'accepté aurait juré que c'était vrai. Tamra tourna la tête vers Xuan, toujours debout devant la fenêtre. La tasse gisant sur le sol, l'ami de Moiraine avait plaqué les mains sur sa bouche, sans doute pour ne pas crier d'horreur. Elle aussi frémit sous le regard de la chair d'Amirline. Moiraine chercha des yeux la tasse qu'elle avait laissée tomber.
« Aucune des deux n'est cassée, »
songea-t-elle.
« Une chance, parce que la porcelaine du peuple de la mer coûte une fortune. »
Quand il refusait de voir en face la réalité, l'esprit humain faisait décidément montre d'une inventivité débridée.
« Vous êtes toutes les deux intelligentes, » dit Tamra, « et malheureusement dotées d'une très bonne ouïe. Donc, vous savez ce que Jitara vient de prédire. »
Même si ce n'était pas une question, les deux acceptés acquiescèrent. Tamra soupira, comme si elle avait, contre toute attente, espéré une autre réponse. Prenant Jitara par les épaules, la chair d'Amirline la posa délicatement sur le tapis, puis lui lissa le front. Après un moment, elle lui retira l'étole bleue, la plia soigneusement et la posa sur son visage.
« Si tu me le permets, mère, » souffla Xuan, « je vais envoyer Eline chercher la dame de compagnie de la gardienne, qui se chargera des... de tout ce qui s'impose. »«
Reste ici !»
cria Tamra. Son regard d'acier passa lentement sur les deux jeunes femmes.
« Quoi qu'il arrive, rien ne doit filtrer de ce qui s'est passé ici. Si nécessaire, n'hésitez pas à mentir. Même pour les autres Aes Sedai, Jitara est morte sans dire un mot. Vous m'avez bien comprise ?»
Moiraine hocha la tête. Du coin de l'œil, elle vit que Xuan l'imitait. N'étant pas encore des sœurs, elles avaient le droit de mentir. Cela leur arrivait encore, même si elles s'efforçaient de se conformer aux trois serments avant de les avoir prêtés. Mais recevoir l'ordre de mentir, et de la bouche de la chair de Myrline...
« Très bien, »
soupira Tamra, très lasse.
« Envoyez-moi, Eline. C'est bien le nom de la novice. Je lui dirai où trouver la dame de compagnie de Jitara. »
Une bonne occasion pour Tamra de s'assurer que la novice n'avait rien entendu derrière sa porte. Sinon, une des deux acceptées aurait très bien pu se charger de lui parler.
« Lorsqu'elle sera entrée, vous pourrez vous retirer. Surtout, n'oubliez pas, silence total, pas un mot. »
Cette insistance soulignait le caractère exceptionnel du moment. Un ordre de la chair d'Amirlin était aussi impérieux et indépassable qu'un serment. En temps normal, il était inutile de le répéter.
« Je souhaitais entendre une prédiction, » pensa Moiraine, « et mon vœu a été exaucé. »
Considérant ce qu'elle avait entendu, elle aurait donné cher pour que ce ne soit pas le cas.